IDFM Radio, le média valdoisien. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur IDFM Radio, Jacqueline Voraz avec Francky à la technique. Bonjour Francky, pour ce nouveau numéro de l'économie en direct. Très heureuse de vous retrouver dans cette émission à écouter en FM sur la fréquence 98.00, en web radio sur 98.fr, DAB+, sur toute l'île de France, pardon, et bien sûr sur notre appli. Aujourd'hui, mardi 16 septembre 2025, souveraineté économique, journée des entreprises du patrimoine, REF 25, partenariat privilégié avec France Travail, mais aussi septembre en or, campagne de sensibilisation au cancer pédiatrique, autant de combats et enjeux majeurs et qui seront nos thèmes du jour. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Jeanne Berry-Josselin, déléguée générale du MEDEF du Val-d'Oise. Bonjour Jeanne.
Bonjour Jacqueline.
Stéphanie Pierrot, chargée de mission de France Travail Val-d'Oise. Bonjour Stéphanie.
Bonjour Jacqueline.
Thierry Barthélémy, directeur adjoint de l'hôpital d'enfants de Margency, un établissement qui est géré par la Croix-Rouge française. Bonjour Thierry.
Bonjour Jacqueline.
Isabelle Pharaon, médecin-chef de l'hôpital d'enfants de Margency. Bonjour Isabelle.
Bonjour Jacqueline.
Et le docteur Ferial Stambouli, médecin en pédiatrie et oncologue à l'hôpital de Margency, présidente de CME. Bonjour Ferial.
Bonjour Jacqueline.
Merci à chacune et chacun d'être les invités en direct de l'économie en direct sur IDFM Radio.
Diversité, écoute, partage, IDFM Radio, votre média de proximité.
Alors Jeanne, sans plus tarder, on commence avec vous. D'abord, il me semblait important de faire un retour sur la 7e édition de la REF 25. REF signifiant Rencontre des entrepreneurs de France, qui s'est tenue les 27 et 28 août dernier dans un lieu assez emblématique, puisque oui, c'était à Roland-Garros.
Tout à fait.
Un rendez-vous qui a marqué la rentrée économique avec des annonces fortes et des débats cruciaux pour l'avenir des entreprises françaises. Un événement qui a réuni, comme chaque année, les acteurs majeurs de l'économie pour dessiner les contours d'une France plus souveraine et compétitive. Alors moi, j'ai lu dans l'édito de Cap, le dernier Cap Île-de-France, là du MEDEF, j'ai lu l'édito de Frédéric Canfrel, président, oui, du Val-d'Oise, du MEDEF du Val-d'Oise, et j'ai noté qu'il restait quand même assez optimiste, malgré l'ambiance générale compliquée.
Oui, mais il faut rester optimiste, et je crois que c'était aussi le message de la REF. Alors le lieu n'a pas été choisi par hasard, c'est un lieu de sport, et donc
oui,
effectivement...
Oui, de compétition.
Compétitivité, mm-hmm, c'est bien de l'avoir remarqué, et c'est l'idée, c'est de dire on est dans un contexte compliqué, autant au point de vue politique qu'économique. Pour autant, faut pas baisser les armes. Il faut défendre nos entreprises. Il faut défendre aussi notre souveraineté via la défense de nos entreprises françaises. C'était l'idée. C'était une REF aussi très particulière, puisqu'on a eu un débat de clôture réunissant les chefs de parti qui sont tous exprimés sur leur vision de l'économie et de l'entreprise. Un moment assez fort et intéressant qui a, je crois, beaucoup plu aux gens qui ont pu assister à ce moment, et dans un contexte particulier qu'on n'avait pas vraiment envisagé au moment où ça a été prévu,
s'est créé, oui,
mais qui était important aussi pour dire, voilà, on est là pour parler d'économie, il faut se recentrer sur ces sujets et qu'ils reviennent au cœur du débat politique, parce que c'est pas assez le cas aujourd'hui.
Très bien, ouais, très bien. Alors, quels sont les messages ou décisions issues de cette REF 25 qui vous semblent aujourd'hui prioritaires à mettre en œuvre sur notre territoire du Val-d'Oise ?
Message ou décision, c'est pas vraiment l'objet de la REF. La REF, c'est vraiment nos universités d'été à nous, en quelque sorte, puisque c'est un terme qu'on connaît plus. Et c'est plutôt un lieu aussi de débat et d'ouverture aux idées de chacun. Donc, le MEDEF a transmis son message, qui est celui que vous avez énoncé au départ, c'est celui de la souveraineté des entreprises et de l'économie. Mais on était aussi là pour débattre avec chacun, y compris avec des représentants de puissances étrangères, de l'avenir de l'économie globale et de comment on se positionne dans un monde où effectivement la question des droits de douane, les instabilités politiques nombreuses, pas que françaises, etc., mettent les entreprises en danger, ou du moins font que beaucoup de chefs d'entreprise sont dans une logique de repli en ce moment, qui effectivement ne va pas dans le sens d'une activité forte pour le pays.
Qui pourrait être qui pourrait être positive, parce que c'est vrai que le département du Val d'Oise reste un département dynamique.
Oui.
Mais qui est confronté à plusieurs défis. Il y a l'attractivité, on en a parlé, la transition écologique, ou encore des tensions sur l'emploi. On va peut-être en parler tout à l'heure avec Madame Pierrot. Et puis cette fameuse souveraineté industrielle qui est quand même un petit peu mise à mal avec cette instabilité politique, justement.
Bien sûr. Alors le Val d'Oise est confronté à des défis. Moi, je suis assez persuadée que le Val d'Oise a aussi des choses très intéressantes à proposer. Parce qu'on a la chance d'être un territoire très proche de Paris, mais en même temps avec de l'espace, des choses à offrir en termes de réindustrialisation. Dans un monde où l'intelligence artificielle devient si importante et où, de fait, le secteur tertiaire va être un peu moins fort qu'il ne l'était avant, a la force de pouvoir proposer des lieux de productivité, et c'est ce qu'il faut qu'on mette en avant aujourd'hui.
Alors, l'instabilité politique actuelle, elle est plus actuelle que jamais. C'est aussi un frein à l'investissement.
Bien sûr.
Quels sont les signaux que le MEDEF peut envoyer aux entreprises pour les rassurer ?
Les défendre auprès des politiques et demander toujours de la stabilité, c'est notre principal message et ça le restera. C'est pas un positionnement politique parce que c'est pas notre objet. Nous, on n'est pas là pour défendre quelqu'un plus que d'autres. On est là pour transmettre le message des chefs d'entreprise. En revanche, il y a une chose qui est certaine, c'est que l'instabilité chronique n'est pas en faveur du développement économique.
Bien sûr, oui, que tous les chefs d'entreprise réclament justement la stabilité, quelle qu'elle soit.
C'est tout le monde, et pas que les chefs d'entreprise, tout le monde.
Je pense que
c'est partagé.
Nos invités qui sont là aujourd'hui en subissent forcément les conséquences dans leur activité. Un mot, Jeanne, sur la réforme des retraites. Au mois de juin, vous avez reçu Patrick Martin qui nous en a longuement parlé.
Oui,
enfin, moi, j'étais présente à ce cocktail, à cette réunion. Quel bilan en tirer pour les entreprises du Val d'Oise?
Alors effectivement, il se trouve qu'on avait reçu Patrick Martin le 19 juin, donc en plein conclave. Il a eu la gentillesse de venir quand même s'il était très happé par des appels de tous bords. Et c'était très intéressant. C'est un conclave qui n'a pas été conclusif, on le sait. Le message à en tirer, c'est que je pense qu'il faut effectivement rester ferme sur ce sujet. On a eu beaucoup de tentatives de réforme des retraites d'ampleur. Tant qu'on n'ira pas fortement dans le sujet et qu'on fera des réformes où on n'arrivera pas vraiment à régler le problème, parce qu'il faut vraiment réformer le tout et y aller très sérieusement. Ça ne veut pas dire qu'on est contre le dialogue, ça veut dire que proposer des réformes fortes qui sont systématiquement dénaturées au fur et à mesure pour qu'il ne reste pas grand-chose ne réglera jamais le problème d'ampleur qu'on a depuis des années maintenant. Donc il faut revoir la chose dans sa globalité et je crois que le dialogue doit se poursuivre.
Oui, c'est probablement le message que Patrick Martin a dû faire passer tout au long de ce conclave dont nous parlions. Merci Jeanne pour cette vision constructive qui veut retenir la force du collectif et de tous ces acteurs prêts à s'engager durablement. Je reviendrai vers vous pour parler des journées du patrimoine.
Plaisir.
Tout de suite, place à la musique avec Superbus et Rory et leur reprise de Butterfly. Restez avec nous, nous revenons tout de suite après.
Dans le monde. fauteuil, un peu sonné par cette foutue bataille. Je m'accroche à tes mots dans le moindre détail.
En Ile-de-France, vous écoutez IDFM Radio sur le 98 FM et en DAB+.
Nous voilà de retour et c'est reparti pour la suite de l'économie en direct sur IDFM Radio en compagnie de Jeanne Berry-Josselin, déléguée générale du MEDEF du Val-d'Oise, Stéphanie Pierrot, chargée de mission de France Travail Val-d'Oise, mais aussi Thierry Barthélémy, directeur adjoint de l'hôpital d'enfants de Margency, Isabelle Pharaon, médecin-chef de l'hôpital d'enfants de Margency et le docteur, le docteur Isabelle Pharaon quand même, hein, je vous enlève votre titre Isabelle, et le docteur Ferial Sambouli, médecin en pédiatrie et oncologue à l'hôpital de Margency, président de CME, l'hôpital de Margency étant dirigé par la Croix-Rouge française. Alors, Stéphanie Pierrot, je m'adresse à vous maintenant. Merci d'avoir accepté cette invitation. Peut-être quelques mots pour nous dire qui vous êtes et que nos auditrices, auditeurs sachent qui vous êtes. Voilà.
D'accord, bah rebonjour Jacqueline. Donc je suis Stéphanie Pierrot, je suis chargée de mission à la direction départementale France Travail Val-d'Oise. Entre autres, j'ai différentes casquettes, hein, tout comme mes collègues, nous sommes 15 à la direction départementale. Moi je suis plus sur l'aide au recrutement, l'aide aux entreprises avec France Travail Pro. Tout ce qui est prospection, partenariat avec les entreprises et les différentes fédérations. Je suis également sur l'insertion par l'activité économique, la création d'entreprises et également référente Cap Emploi côté entreprise pour aider le recrutement des personnes en situation de handicap ou le maintien en emploi.
Très bien, voilà. Très bien. Alors, c'est vrai que France Travail, c'est un acteur clé hein, du service public de l'emploi en France. Est-ce que ces collaborations et ces partenariats que vous avez, comme celui que vous avez aujourd'hui avec le MEDEF, sont nouveaux ou ça a toujours existé, Madame Pierrot ?
Alors, on a toujours eu des partenaires hein, au niveau France Travail, hein, mais c'est vrai qu'avec la loi Plein Emploi, le développement du réseau pour l'emploi, on a vraiment renforcé cette démarche collaborative. Donc on a en principaux, hein, historiquement, tout ce qui est mission locale, Cap Emploi, les conseils départementaux, régionaux. Et sur la base du volontariat, en effet, on peut avoir la PEC, tout comme le MEDEF, avec Jeanne.
Très bien, très bien. Et donc, expliquez-nous un petit peu quel est vraiment l'objectif de cette collaboration.
Donc en fait, la collaboration de nos partenaires, bien entendu, c'est de favoriser le retour à l'emploi. Hein. Nous, oui. France Travail, on est là pour le retour à l'emploi. Mais c'est également pour trouver des solutions aux entreprises, puisque souvent, il y a des besoins et ça correspond pas forcément à la demande. Donc on essaye de voir ensemble qu'est-ce qu'on peut mettre en place, puisque au niveau France Travail, on a différents dispositifs. souvent méconnue. Et donc les partenaires et les fédérations comme le MEDEF peuvent être un bon relais d'information auprès des entreprises. Souvent n'osent pas appeler ou contacter son conseiller France Travail Pro.
Oui, oui.
Et ce qui est dommage parce
que... Oui, il y a toujours une petite barrière qui fait que... On n'ose pas aller vers eux, alors que bon, il se trouve que moi, pour une autre raison, j'ai eu affaire à eux en tant que présidente de la radio. Et voilà, j'ai découvert des gens absolument adorables, très 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 bien, très bienveillants. Et c'est vrai que France Travail, tout de suite, il peut y avoir comme ça un a priori. Voilà, merci Jeanne, merci.
Tout à fait. Et puis du coup, l'avantage, comme les fédérations vont travailler avec elles, donc du coup, elles connaissent nos dispositifs. Mmh. C'est des très bons relais d'information. Donc, comme vous le dites, ça peut être aussi bien pour du recrutement ou des difficultés autres. Malheureusement, il y a aussi l'accompagnement au licenciement. Et moi, je suis plus là pour parler du recrutement. Mais c'est vrai qu'on a différents dispositifs comme l'immersion facilitée qui permet à l'employeur de faire découvrir son entreprise, ses métiers. C'est un peu une sorte... c'est comme si que la personne était un peu en stage pour découvrir. Après, on peut avoir le recrutement par simulation, qui est souvent méconnu. Parce que c'est vrai qu'il y a des nouveaux postes ou des grands recrutements en nombre. On n'a pas forcément en face, nous, les candidats. Donc là, on va plus tester les habiletés. Et puis après, une mesure qui plaît de plus en plus, enfin qui est méconnue et pourtant qui est très bien et qui prend de l'ampleur, c'est la préparation personnelle embauche.
Oui,
en fait, on a trouvé le bon candidat, ça match. Mais il lui manque un petit truc.
C'est ça.
Et donc là, France Travail, on intervient pour soit par le biais du tutorat ou la formation, l'adapter vraiment au poste que l'employeur recherche. Donc faut pas hésiter et contacter votre conseiller France Travail Pro au 39 95 ou même sur le site.
Oui,
j'en profite.
Vous avez raison, mais on va le redire tout à l'heure, on va le redire. Alors, je suis pas là pour parler de moi, mais je voulais quand même encore témoigner avec le dispositif immersion, toujours grâce au MEDEF et à Jeanne Berry-Josselin. On a, nous, accueilli un jeune qui a fait un stage en tant qu'ingénieur son. Et vraiment, moi, je regrette pas parce que c'était une belle rencontre et on reste en relation d'ailleurs avec lui. Bon, en espérant pour lui qu'il trouve bien sûr un travail, c'est clair. Mais voilà, et j'avais eu l'occasion d'en parler avec Monsieur Alves,
le directeur départemental,
qui parlait de ce dispositif immersion que je trouve vraiment formidable.
En fait, il a deux enjeux. Soit pour l'employeur, vous hésitez à recruter, ou éventuellement à mort d'emploi, il se dit est-ce que ce métier est vraiment fait pour moi. C'est ça, à mon avis. Avant de me lancer dans un plan de formation, est-ce que vraiment ça va me convenir? Donc, oui. Et là, on remercie les entreprises aussi qui jouent le jeu pour permettre à ces personnes de valider un projet professionnel.
Est-ce que vous pouvez nous faire un descriptif de France Travail Pro, puisque 95, puisque c'est votre domaine?
Tout à fait. Donc, au niveau de France Travail Pro, nous sommes 15 agences au niveau départemental, avec la spécificité de Roissy, qui est une agence qui n'accueille pas de public, qui est uniquement sur la zone aéroportuaire pour les recrutements. Sur ces 15 agences, c'est environ 80 conseillers France Travail Pro qui sont à votre disposition. France Travail Pro, c'est un bouquet de services qui a été élargi en octobre, puisque nous avons élargi notre accueil téléphonique du lundi au vendredi de 7h à 20h, ce qui veut dire que pour un employeur, contrairement à avant, ça correspond un petit peu mieux. Il peut laisser un message si nous ça correspond pas forcément aux horaires de nos collègues, mais pour être appelé, et sur le site. Il trouve tout. Il peut demander une demande de rendez-vous téléphonique, physique, et puis expliquer ou décrire son poste. Et pareil, il peut déposer également son offre d'emploi directement sur le site. Et si jamais c'est pas complet ou que c'est pas forcément attractif, un conseiller va prendre contact avec lui pour la rendre la plus attractive possible.
Bien sûr. Ah oui, il y a cette aide aussi, une sorte de coaching un petit peu. Ouais, oui.
Un conseil dans la rédaction de l'offre, parce qu'on est d'accord que pour se démarquer par rapport aux autres employeurs, Il faut que ce soit plus attractif.
Je m'adresse à Monsieur Barthélémy, Isabelle et puis Ferial. Vous aviez une idée de l'articulation de France Travail ou pas trop, Thierry?
Moi, je découvre. Je connaissais évidemment France Travail.
Oui, on connaît tous France Travail.
Mais pas forcément en fait en détail de ce que a exprimé Frédéric.
Oui. Et Isabelle, non?
Idem aussi. Oui, je découvre.
C'est-à-dire que nous, bien. En tant que médecins, on a la chance de pas avoir besoin de vous solliciter, en fait. Donc, on vous connaît bien de nom, mais c'est vrai que les médecins, on a en fait l'embarras du choix pour trouver des postes.
Oui, c'est ça.
Et donc, on a cette chance.
Très bien. Merci pour votre témoignage.
C'est une ouverture.
Stéphanie. Vous allez, il y a un événement là qui est organisé par le MEDEF. Ce sont les JPE, les Journées du Patrimoine des Entreprises, et vous avez accepté de participer à ces journées-là. Je vous laisse nous expliquer.
Tout à fait. Donc notre directeur départemental Antonio Alves, en tant que partenaire avec le MEDEF. Donc déjà, on aide puisqu'on relaie cette information auprès des entreprises. C'est-à-dire qu'une entreprise qui nous contacte, on l'informe de cette journée du patrimoine. Et sinon, nous-mêmes en tant que recruteurs, parce qu'on recrute aussi à France Travail des conseillers pour l'emploi, nous allons ouvrir 4 agences le vendredi 26 septembre. Donc ce sont les agences de Sarcelles, Gonesse, Saint-Ouen-l'Aumône et Argenteuil. Donc ça couvre un peu plus le 95.
Le département, oui.
Et l'idée, c'est de faire découvrir nos métiers, puisque à France Travail, on a 3 dominantes pour les conseillers. Là, je vous ai parlé tout à l'heure des conseillers France Travail Pro qui sont en rapport avec les entreprises. Mais on est d'accord qu'on a également des conseillers indemnisation, puisque pour les personnes qui perdent un emploi, on compense la perte de salaire en attendant qu'ils retrouvent un autre emploi.
Oui.
Et on a aussi des conseillers dits placement ou conseillers en évolution. C'est-à-dire qu'ils vont accompagner, aider le demandeur d'emploi, soit à être formé pour s'adapter au marché du travail ou soit en technique de recherche d'emploi. Mmh. Et donc, on va ouvrir nos agences la matinée. Et les candidats, du coup, seront reçus et on présentera nos métiers. Puisque là, jusqu'à fin décembre, on recherche au niveau du Val d'Oise 25 conseillers par mois.
D'accord.
Donc 25 conseillers en octobre, 25 conseillers en novembre et 25 conseillers en décembre.
Donc si vous voulez faire une annonce pour cette recherche,
voilà.
Que faut-il faire?
Donc on va inscrire sur le site du MEDEF et sinon nous on a un site francetravail.org où vous pouvez également déposer vos CV. Donc le profil recherché c'est un niveau bac plus 2.
Oui.
Voilà, sinon il y a, et comme je vous le dis, après il y a 3 dominantes selon ce que
la personne dans laquelle elle veut se diriger, oui.
Ce qu'elle préfère ou ses appétences.
Bien sûr, très bien. Merci Stéphanie Pierrot. Alors, je rebondis avec vous aussi, Jeanne, à propos de ces JPE organisées par le MEDEF, des journées qui vont permettre de renforcer le lien entreprise-citoyen, c'est ça?
C'est l'idée de départ, ça a été lancé par un MEDEF territorial. C'est dans la continuité en fait des journées du patrimoine classiques qu'on connaît tous, qui sont le week-end prochain, le 19 septembre. Et l'idée, effectivement, c'est de permettre aux entreprises d'ouvrir pour répondre à 2 sujets. Soit le sujet du recrutement, puisque effectivement c'est un problème dans beaucoup d'entreprises, mais pas que. Aussi d'ouvrir pour présenter à leurs voisins, aux habitants des villes, ce qu'on fait réellement dans les entreprises. Je crois qu'on en avait déjà parlé à ce micro, mais souvent il y a des a priori des gens qui voient de la fumée sortir de la cheminée ou qui imaginent que l'industrie c'est encore poussiéreux, sale. ça a changé le monde de l'entreprise. Et donc l'idée vraiment, c'est d'ouvrir pour montrer ce que c'est réellement aujourd'hui l'industrie, l'entreprise. Le BTP moins, parce que ça s'y prête moins. Hein. De fait, il n'y a pas d'usine BTP, c'est les gens qui travaillent à l'extérieur. Donc là, on va être beaucoup sur de l'industrie, mais pas que. On a le domaine de Maffliy qui ouvre aussi pour présenter tous les métiers de la restauration,
oui.
Ce qui se passe, qui est un très bel endroit.
Si
vous avez l'occasion d'y aller. Et voilà, l'idée, c'est vraiment de recréer un dialogue avec le grand public sur ce qu'on fait dans les entreprises et sur ce que sont les métiers aujourd'hui, notamment pour les jeunes, parce que les enfants veulent tous être aujourd'hui influenceurs, youtubeurs, etc.
Oui.
Mais parce que de fait, ils connaissent pas les autres métiers. Mmh. Ils savent pas ce qu'on peut faire en tant qu'ingénieur dans des entreprises, ce qu'on peut faire en tant qu'ouvrier dans des entreprises à parfois très haut niveau de qualification. Et voilà, nous, on veut sensibiliser les jeunes et les moins jeunes à ça et leur montrer qu'il y a plein de conversions, reconversions possibles dans des métiers tout à fait passionnants ici.
Je vous laisse nous rappeler les dates, Jeanne, de cette journée.
C'est le 26 septembre, qui est un vendredi, mais aussi le 27-28, c'est un week-end, donc c'est ouvert à tous, y compris ceux qui ne pourraient pas pendant la semaine.
Est-ce que vous avez un message à passer pour inciter les Valdoisiens à découvrir ce patrimoine industriel ou artisanal?
Je crois que c'est assez insolite de rentrer dans une entreprise. Et ça permet aussi de découvrir son territoire, parce que la plupart des gens ne vont jamais dans une zone d'activité, sauf quand ils y travaillent. Donc voilà, allez-y, vous êtes pas obligé d'être passionné partout, mais allez-y, allez voir, on sait jamais. Et puis c'est une bonne occasion aussi de sortir sur un dernier week-end de septembre qui est un peu trop loin des vacances.
Voilà. Et donc pour savoir quelles sont les entreprises qui ouvrent leurs portes, il faut aller sur le site du MEDEF, c'est ça ?
Il faut aller sur le site des Journées du Patrimoine Économique. Mmh. Mmh. Vous tapez Journées du Patrimoine Économique MEDEF sur un moteur de recherche, vous tombez dessus et vous allez avoir toutes les entreprises qui ouvrent, quand est-ce qu'elles ouvrent, s'il reste des places pour s'inscrire. Voilà, on est sur une première année, on n'en a pas autant que ce qu'on aurait voulu, mais on espère bien que ça va prendre les années suivantes. Donc c'est l'occasion de découvrir aussi les plus volontaire sur ce genre de programme.
Alors en vous écoutant, Jeanne, il m'est venu une idée qui c'est peut-être pas une bonne idée, mais bon, je la lance. Est-ce que l'hôpital de Margency pourrait éventuellement ouvrir ses portes à ces journées du patrimoine, Thierry Barthélémy?
Alors je voulais faire le lien avec ce que disaient effectivement Stéphanie et Jeanne. Donc après, en termes d'organisation,
oui,
il faut
scaler.
C'est compliqué.
C'est
un peu plus compliqué.
Ça, oui.
Notamment pour l'accès dans les services hospitaliers.
Avec les enfants, oui.
Mais l'hôpital d'enfants de Margency a 287 salariés. Et donc, il y a des médecins, mais pas uniquement. Donc, il y a une pluridisciplinarité, en fait, au sein de l'hôpital. Plusieurs métiers, des médecins, des infirmières. Là, on est en demande. Là, on a quasi tout pourvu, mais on est toujours en demande, en fait, d'infirmières, d'aides-soignantes, d'aides de puériculture. On a une équipe de 30 éducateurs, donc éducateurs spécialisés, éducateurs jeunes enfants. On a aussi des diététiciennes, on a tout un plateau technique de rééducation avec des kinés, de l'activité physique adaptée, de la psychomotricité, de l'ergothérapie. Voilà, il y a une multitude de métiers dans le médical, mais il y a aussi des postes techniques, des postes, là on vient de recruter un alternant en informatique, il y a des postes administratifs en comptabilité, en information médicale. Voilà, c'est quand même un employeur.
C'est une véritable entreprise, hein.
Non lucratif, mais oui, ça reste.
Eh bien, écoutez, voilà, vous n'avez plus qu'à vous mettre en relation avec Jeanne et puis proposer l'ouverture de l'hôpital de Margency. Merci beaucoup, Thierry. Je propose qu'on fasse une courte pause et puis je termine avec Stéphanie Pierrot parce que je vous ai pas posé toutes mes questions, Stéphanie.
Pas de souci.
À tout de suite.
Vous écoutez IDFM Radio sur le 98 FM.
IDFM Radio, c'est l'économie en direct et nous poursuivons cette émission consacrée au MEDEF du Val d'Oise, mais aussi à l'hôpital pour enfants de Margency. Stéphanie Pierrot, donc dans la continuité de ce que vous nous avez expliqué, vous avez bien communiqué sur les métiers de conseiller de France Travail. Nos invités médecins se posaient la question du lien qu'il peut y avoir entre la médecine et France Travail, en tout cas la santé et France Travail.
Oui, donc il faut savoir qu'à l'heure d'aujourd'hui, il y a plusieurs secteurs en tension. On va parler de l'industrie, du bâtiment, comme on a eu pour les JO, la sécurité. Et là, 2025, bah, nous, c'est les métiers de l'humain. Donc, depuis un peu plus d'un an, on s'est... Bon, bah, forcément, hein, c'est un problème conjoncturel. Hein, notre population française va en vieillissant. Donc, il faut le maintien des personnes âgées à domicile, un accueil adapté, idem pour des personnes en situation de handicap ou des enfants en situation de handicap. Donc, il y avait beaucoup de... Nous avons malheureusement en face... Les morts d'emploi n'avaient pas ne recherchaient pas forcément dans ces métiers-là. Donc cette année, on a surtout essayé de, on travaille pour sensibiliser les morts d'emploi dans ces métiers, pour les attirer dans le secteur de la santé, du service à la personne. Donc notamment par des immersions, comme je parlais. Après, on a des formations possibles pour des postes d'ADVF et tout ça pour. Bah, pour pouvoir aider les personnes âgées à rester chez elles. Après, sur les postes d'infirmières, médecins, c'est beaucoup plus compliqué forcément pour nous, parce que là, on va t'aller sur des formations diplômantes.
Oui.
Des formations diplômantes. Mais tout ce qui est formation non diplômante, la toilette, le ménage, oui, les choses comme ça.
Service à la personne,
c'est
plus votre domaine.
Donc là, on travaille énormément dessus. Sur le Val d'Oise, on avait un objectif de sensibiliser 5000 personnes pour les attirer vers ces métiers-là. On a formé déjà un certain nombre de personnes depuis janvier. Donc comment on a fait? Bon, on fait des ateliers sectoriels en agence, où on leur présente le secteur qui est souvent méconnu. Et après, pour voir s'ils ont les compétences pour éventuellement suivre les formations, on a des détections de potentiel avec des exercices mis en œuvre pour ensuite engendrer un parcours de formation.
Très bien.
Donc on a la santé, mais et puis là c'est cette année aussi, on a aussi l'industrie, puisque c'est un secteur également où malheureusement, comme le disait Jeanne et je la rejoins, où les jeunes ou les moins jeunes ne veulent pas forcément aller. Et donc nous, on aura un grand événement le 5 décembre qui est le Fort Industrie, où justement c'est un système de jeux vidéo un peu où les gens vont se connecter pour découvrir autrement les métiers de l'industrie. Donc on essaye avec nos partenaires d'être innovant, de changer un peu pour capter tout simplement le public et le capter autrement.
Très bien. Voilà. Bah, écoutez, merci infiniment. Bah, nous relirons votre événement du 5 décembre. Vous m'enverrez plus de précisions et puis on n'hésitera pas à le relayer sur notre média.
Merci Jacqueline.
Merci infiniment Stéphanie Pierrot pour ce tour d'horizon très complet de France Travail Pro et puis ces différentes missions d'accompagnement dont nous retiendrons que l'efficacité reste votre enjeu principal. Merci infiniment. Je propose qu'on fasse une nouvelle pause et on écoute Christophe Maé, Je me lâche.
C'est pas que je n'aime pas les gens, mais je suis comme à l'étroit dans leur monde. C'est pas que je n'ai pas le temps, mais dans mon cœur j'y peux rien, le tonnerre gronde. C'est pas que je n'aime pas ma femme, mais j'en peux plus d'entendre. Je suis pas trop grosse, non. C'est pas que je n'aime pas mon job, mais j'en peux plus d'être au service de mon boss. Je rêve de lui dire vous êtes aussi con que moche. Donc y'a des jours où je me lâche et j'envoie tout foutre en l'air.
Je veux que l'on me lâche.
Vous êtes bien sur IDFM Radio.
IDFM Radio pour l'économie en direct, consacrée ce matin au MEDEF du Val d'Oise et la campagne de sensibilisation au cancer pédiatrique Septembre en or, avec à mes côtés Jeanne Beury-Josselin, déléguée générale du MEDEF du Val d'Oise, Stéphanie Pierrot, chargée de mission de France Travail Val d'Oise, Thierry Barthélémy, directeur adjoint de l'hôpital d'enfants de Margency, le docteur Isabelle Pharaon, médecin-chef de l'hôpital des enfants de Margency, et le docteur Ferial Stambouli, médecin en pédiatrie et oncologue, toujours à l'hôpital de Margency, un établissement géré par la Croix-Rouge française. Thierry Barthélémy, donc Septembre en or, c'est un vrai symbole de sensibilisation au cancer pédiatrique et qui nous invite à renforcer notre soutien pour ceux qui en ont le plus besoin.
Effectivement, merci beaucoup Jacqueline de nous convier à dans ce mois en fait crucial hein, pour oui. Pour la sensibilisation pour les cancers pédiatriques. Donc c'est Septembre en or, c'est encore un peu moins connu que le mois d'octobre rose qui va venir.
Mais ça commence, hein, ça fait une dizaine d'années maintenant, je crois.
Oui, ça fait une dizaine d'années en fait qu'il y a eu cette initiative vraiment de sensibiliser avec il y a un ruban en or pour sensibiliser à cette cause. Donc il y a 2500 enfants atteints de cancer par an. Et ça ne va pas, hélas, en diminuant.
En diminuant.
Oui. Donc, nous, en tout cas, on n'a pas de diminution de fil actif, qu'on appelle. Ouais. Donc, les listes d'attente sont conséquentes pour l'hôpital d'enfants de Margency, mais pas seulement. Donc, effectivement, l'hôpital d'enfants de Margency, il y a un lien, hein, parce que c'est un établissement de soins médicaux et de réadaptation, avec une activité de 100 lits et 287 salariés. Donc, dans une commune comme Margency, qui compte environ 3000 habitants, voilà, c'est quand même 10%.
Absolument.
C'est un pôle économique conséquent. Oui. Et en complément de ce que disaient Jeanne et Stéphanie, nous, on fait attention, effectivement, à l'attractivité. On a une crèche, par exemple, pour les enfants des salariés, dans l'enceinte de l'hôpital.
Ah, très bien.
Et qui a permis on sait qu'il y a des personnes qui se sont engagées à l'hôpital de France de Margency parce qu'il y avait cette crèche. Et avec une crèche qui est adaptée aux horaires des soignants, c'est pas 9h, 17h, mais elle commence à 6h30 et elle finit jusqu'à plus de 21h, qui s'adapte au cycle. Aujourd'hui, l'hôpital d'enfants de Margency accueille 230 patients en hospitalisation complète de quelques semaines jusqu'à 17 ans. Et l'établissement, même si c'est à Margency, petite commune du Val d'Oise, c'est un rayonnement international. Donc on a 60% des enfants qui proviennent de l'Île-de-France,
oui.
Mais beaucoup aussi viennent des Drôme-Com et de l'étranger ou de province. Comme il y a 2500 cas par an, on peut pas créer en fait des structures en Guyane, en Polynésie, en Martinique. Donc les enfants, quand ils sont détectés, sont envoyés en fait dans les hôpitaux de référence parisiens.
Mm-hmm.
Et une fois que le protocole est déterminé, ils sont envoyés à l'hôpital d'enfants de Margency. La durée de traitement en onco-hématologie, c'est 7 à 8 mois. Donc, ils peuvent pas faire les allers-retours comme un adulte, en fait, entre le chez-soi et l'hôpital pour faire un traitement en chimiothérapie. Donc, ils peuvent pas faire ces allers-retours de la Guyane, de la Polynésie.
Bien sûr. Mm-hmm.
Les patients qui viennent de l'Île-de-France aussi vivent à plus de 80% dans des situations de précarité extrême.
Mm.
Donc, logement insalubre ou pas de revenus. Donc, ils rendent difficiles, en fait, les allers-retours entre le soin et le domicile. Donc les médecins en parleront beaucoup mieux que moi, mais l'essentiel en fait est la prise en charge médicale avec une équipe de médecins. On fabrique sur place la chimiothérapie.
Donc oui, j'avais retenu que Isabelle nous avait dit l'année dernière que vous fabriquiez vous-même vos protocoles. Hein, c'est ça, oui. J'ai compris que c'était un gros avantage.
Ah, hein. Oui, totalement.
Donc oui, pardon, Thierry.
C'est unique en France d'avoir une unité de production des cytotoxiques au sein d'un établissement de soins médicaux et de réadaptation.
Thierry, ce que j'aimerais dire, c'est que l'hôpital d'enfants de Margency est bien connu hein, sur notre territoire, qu'il reste un lieu à part, et d'autant plus qu'il faut souligner qu'en France, il n'y a pas tant que ça d'hôpitaux pour enfants. Je crois que c'est important de le dire. Et je crois qu'en tout, il y en a une petite dizaine ou plus de oui. Pas plus.
Non, pas plus. Il y a une petite dizaine d'établissements pédiatriques.
Exclusivement dédiés aux enfants. Hein.
Oui. Mm-hmm. Oui. Nous, on est 100% et en SMR pédiatrique.
SMR.
Ne serait-ce qu'au sein.
C'est-à-dire préciser.
Soins médicaux et de réadaptation.
D'accord. Et après pédiatrique.
D'accord.
Uniquement pour la Croix-Rouge, par exemple, il y a 3 établissements pédiatriques. Il y en a un à Pau, un à Aubrassé qui est à Meaux, mais sur des pathologies complètement différentes. Donc on est le seul établissement au sein de la Croix-Rouge pour le cancer de l'enfant.
Et alors peut-être que vous avez prévu d'en parler, que je vous devance, mais la particularité aussi de cet hôpital, c'est qu'il accueille les parents. Il a un établissement scolaire, c'est-à-dire que les enfants, au fond, ont une vraie vie hein, dans ce
voilà, comme dans
votre établissement.
Exactement. Donc, comme les enfants, en fait, ne peuvent pas faire les allers-retours entre chez eux et le soin, en onco-hématologie, ils vont rester plusieurs mois. On a un autre pôle qui est la pédiatrie spécialisée. Ce sont des enfants atteints de maladies du développement digestif, respiratoire ou métabolique. Et eux, ils peuvent rester de quelques mois à plusieurs années. Certains enfants sont à l'hôpital d'enfants de Margency depuis plus de 10 ans.
Ah oui.
Donc ce qui est important pour la guérison, c'est évidemment la prise en charge médicale, mais c'est aussi tout l'accompagnement que l'on fait autour. Donc pour revenir à votre question, Jacqueline, on ne veut pas couper le lien avec la famille. Donc nous avons une maison des parents, qui est un hébergement social, qui accueille 30 mamans et quelques papas. Qui permet à la maman ou au papa en fait d'être à proximité de son enfant. On favorise également la parentalité au chevet. Donc là, c'est pour les parents qui viennent soit de loin, soit de l'Île-de-France. Ils peuvent rester dormir aux côtés de leur enfant. Et quelquefois, c'est 20 à 25 mamans qui dorment à côté de leur enfant, notamment les tout-petits. Ouais. Donc ça veut dire c'est que dans l'enceinte, on a quelquefois 50 à 60 mamans ou papas qui restent dans l'enceinte de l'établissement. On ne veut pas les couper du lien pédagogique.
Bien sûr.
Donc, pendant toute la durée d'hospitalisation, les enfants doivent et peuvent continuer à l'école. Peuvent continuer leur cursus scolaire. Donc, on a une école également, un partenariat avec l'éducation nationale. On a 9 professeurs qui dispensent les cours de la maternelle petite section au bac. Donc, ça, c'est pour les enfants qui peuvent sortir de l'hôpital. Et pour les enfants qui ne peuvent pas sortir de l'hôpital, là, ce sont les professeurs qui vont dans les services dispenser les cours. Et pour les enfants au lycée, ou comme les autres, ils ont des options en mathématiques, en allemand, en langue étrangère. Là, on fait appel à des professeurs spécialisés en fait dans leur activité.
Donc un établissement qui est très bien géré et gouverné, hein, on peut le dire. Vous-même, Thierry, votre mission au sein de l'hôpital, quelle est-elle ?
La mission, je qualifierais d'essayer de mettre de l'huile dans les rouages.
C'est pas rien.
C'est pas rien. Et voilà, il peut y avoir tout des problématiques. Hein. Il y a 9 bâtiments, 15 hectares. Ça peut être des problématiques techniques. Ça peut être des enjeux stratégiques. Et là, si on est dans le mois de sensibilisation pour la lutte contre le cancer des enfants. Voilà, ce projet d'établissement, il est unique. Et le fait d'avoir une maison des parents, d'avoir une école, d'avoir une unité de production des cytotoxiques, on fabrique aussi l'alimentation sur place, on a une unité de production diététique, d'avoir une équipe d'éducateurs, il faut occuper les enfants hors des soins.
Oui.
En fait, l'hôpital est tellement spécifique et unique qu'il ne rentre pas en fait dans les modèles économiques classique. Et donc mon rôle principal, et je pense que j'ai été recruté pour ça au début comme stagiaire, pour faire une étude médico-économique pour démontrer en fait que la prise en charge telle qu'on la veut à Margency, elle ne rentre pas dans les cases, et on voulait objectiver ce fait là donc ma principale mission, je dirais aujourd'hui, c'est de avec évidemment Madame Guiry, hein, c'est de l'appuyer et de l'aider pour faire comprendre aux autorités de tutelle en fait la nécessité d'un tel projet d'établissement et qu'ils mettent les moyens au regard du projet que l'on veut. Et en période d'actualité, vous l'avez évoqué, très compliqué.
C'est compliqué,
parce que à chaque fois, en fait, on a du mal à trouver les interlocuteurs, ou quand on les trouve, en fait, ils sont pas en situation de décision pour nous aider. Donc pour nous, en fait, c'est assez compliqué.
C'est compliqué, oui.
Ce contexte-là, ça a des répercussions directes pour le.
Sur les finances, hein, forcément, bien sûr. Alors de la même façon que je vous ai demandé si vous connaissiez France Travail, je vais demander à Jeanne Beuré puis Stéphanie Pierrot si vous connaissiez, sûrement vous connaissiez l'hôpital de Margency, mais est-ce que vous en connaissiez les rouages, c'est sa spécificité, Stéphanie?
Personnellement, non.
Oui.
Parce que je n'ai pas été concernée, heureusement, en tant que maman,
ce modèle,
ou familiale. Je savais que dans les hôpitaux, il y avait l'accueil des parents, c'était très important pour les enfants, l'éducation, parce que comme vous le dites, il faut continuer la scolarité. Et je rebondis parce que c'est vrai que par rapport à tout ce qui est auxiliaire de puère ou accompagnant dans l'enfance, c'est vrai que nous aussi on propose des formations à France Travail. Donc si des personnes qui nous écoutent et veulent rejoindre l'hôpital de Margency, on pourra éventuellement revoir ensemble pour faire en sorte d'étoffer un peu votre équipe et que ces enfants aient plus d'accompagnement.
Oui, Thierry.
Je pense également, pas seulement aux salariés de l'hôpital d'enfants de Margency, mais justement aux parents des enfants hospitalisés. En fait, la maladie leur tombe dessus et tout est bouleversé. Mais pour les mamans et les papas qui restent là suffisamment de temps, là j'ai en tête une maman où l'enfant, ça fait 3 ans qu'il est hospitalisé, son enfant rentre à l'école. Elle n'est plus hébergée à la maison des parents parce qu'elle a trouvé un logement associatif et elle a cherché du travail pour s'insérer aussi dans la vie active. Mmh. Donc il y a quelque chose
à aussi, je pense, avec les parents. Pour ça, on peut venir, même personnellement, vous me conviez à Margency et je peux présenter à toutes ces personnes, même les services France Travail. On a une offre de services demandeurs d'emploi et des accompagnements.
Oui.
Avec plaisir, on en discutera.
Bon, écoutez, je suis ravie que ce lien puisse se faire. Jeanne, vous connaissiez...
Oui, mais je triche un peu, puisque j'ai même visité l'hôpital, donc forcément, maintenant, je le connais. Avant, de nom, évidemment, dans le territoire, mais c'est vrai que sur la partie recrutement, puisque sur la partie soins, j'ai aussi la chance de ne pas être du tout concernée par le sujet. C'est un beau lieu pour travailler, vraiment, c'est agréable, et on se dit que pour les enfants, c'est une chance, mais aussi pour les personnels de pouvoir travailler dans un lieu comme ça qui prend en compte leurs besoins, surtout sur des métiers où ça doit pas être facile tous les jours. Voilà.
Thierry. Jeanne.
C'est pas seulement des mots. La qualité de vie au travail à l'hôpital d'enfants de Margency.
Oui, c'est une réalité.
C'est, je pense, une réalité à la fois dans la crèche était un exemple, mais pas que. Et on a fait un parcours santé en fait. Parce que le cancer touche les enfants que l'on accueille, mais ça touche aussi chaque année en fait des mamans, notamment par rapport au cancer du sein. On a 90% en fait d'effectifs qui est féminin. Donc on a un parcours santé pour faire du sport. On va organiser Octobre Rose aussi. Donc on s'adapte aussi il y a une certaine dynamique. Et on dit qu'on vient pas par hasard à l'hôpital d'enfants de Margency, et après c'est effectivement de l'attractivité et de garder en fait les équipes, mais voilà, la qualité de vie au travail n'est pas un vain mot.
C'est vrai que on parlait de stabilité politique, mais dans le travail aussi, la stabilité, c'est très important pour une bonne continuité. Merci beaucoup Thierry Barthélémy pour cette présentation. On va marquer une pause et puis on va attaquer la partie plus médicale avec nos deux médecins. Donc je propose encore une pause et là ce sera avec Marc Lavoine et la rue des Acacias. À tout de suite.
Elle n'était pas ma voisine, elle vivait. vivais dans les collines là-haut, rue des Aubépines. Je n'étais pas fier à bras, et chez nous il faisait froid. Oh, bas, rue des Acacias, on se croisait de temps en temps. Alors on marchait dans les champs, au milieu des fleurs du printemps, qui chasse au loin tous les tourments. Je l'aimais tant, je l'aimais tant, je l'aimais tant. Elle rêvait d'Anna Karenine et de Robin Crinoline là. Je n'étais pas sûr de moi, Dieu que j'étais maladroit. En bas, rue des Acacias, les années passaient doucement. On se regardait gentiment, mais la neige et le mauvais vent chassent loin les rêves d'enfant. On s'aimait tant, on s'aimait tant, on s'aimait tant. Dans le spleen d'un canapé bleu marine, là-haut, rue des Aubépines. Moi j'ai pleuré plus que moi, glacé de peine et de froid. En bas, rue des Acacias, elle avait peut-être 20 ans. Je m'en souviens de temps en temps, mais jamais ne revient le temps. Dans les collines là-haut, rue des Aubépines. Je n'étais pas fier à bras, et chez nous il faisait froid. Rue des Acacias.
IDFM Radio, 98 FM.
C'est l'économie en direct sur IDFM Radio. Merci de nous suivre jusqu'à 11h sur le thème du MEDEF. Avec toujours à mes côtés Jeanne Berry-Josselin, déléguée générale du MEDEF du Val-d'Oise. Stéphanie Pierrot, chargée de mission de France Travail Val-d'Oise. Thierry Barthélémy, directeur adjoint hôpital d'enfants de Margency, le docteur Isabelle Pharaon, médecin-chef de l'hôpital d'enfants de Margency, et le docteur Ferial Stambouli, médecin en pédiatrie et oncologue à l'hôpital de Margency, un établissement géré par la Croix-Rouge française. Alors, docteur Isabelle Pharaon et Ferial Stambouli, avec vous, on aborde le côté plus médical. On a compris que l'hôpital avait la spécificité d'une hyper-médicalisation. Peut-être nous en dire un peu plus.
Avant de passer à l'oncologie, l'oncohématologie.
Donc Isabelle Pharaon.
Bonjour. Et effectivement, l'hyperspécialité ou l'hyperspécialisation de notre hôpital, c'est que ça s'inscrit dans la continuité de tout ce qu'on peut faire pour nos patients qui ont besoin de quelque chose d'hyper spécifique, comme la nutrition parentérale, la nutrition entérale, et puis tout. Après, je laisserai la parole à ma collègue qui va vous parler sur le plan onco-hématologique. Et surtout notre participation à tout l'effort au niveau de la santé nationale, c'est surtout rester vigilant pour sur le virage ambulatoire. Hein. Donc on a des patients qui restent plus que 5 ans dans notre établissement. Oui. On a réussi avec un. On réussit actuellement. On va un peu réapprendre ces enfants-là qui ont été un peu éloignés de leurs parents à cause de la maladie, mais c'est pas une toute petite maladie, c'est de toute une grande maladie,
c'est grave,
et de les remettre sur le champ de la famille. Voilà, donc c'est tout un système qu'on est en train d'élaborer avec la direction au niveau de la parentalité et de réaccepter ces enfants-là au sein de leur famille. Je parle des familles qui sont là, qui existent et que leur enfant est encore hospitalisé chez nous et que ça fait 11 ans, 10 ans. Et ce sont des pathologies très très graves qui ne relèvent pas de l'onco-hématologie. Hein.
Donc, c'est ça. Voilà. Oui, vous nous dites que au-delà de la guérison du cancer, il faut derrière adapter toute une psychologie pour que l'enfant Totalement. Puisse se réadapter parce qu'il est coupé du monde
Il est coupé du monde comme les parents, hein, donc ils sont coupés du monde. Et je remercie effectivement de ma direction parce qu'ils sont à côté de nous pour tout ce qui est tout autour de ces problèmes qui gravitent autour de notre prise en charge au niveau de la santé. Hein. Mm-hmm. On a des parents qui parfois à cause de la maladie, c'est comme s'ils ont, on peut dire le terme, qui disjoncte un tout petit peu, qui c'est vraiment comme une massue qui pète un plomb. Et c'est la direction qui les accueille, on fait tout pour que cette dynamique reste au niveau de pour la guérison du patient dans tous les domaines. Et en fait après je remercie vraiment Stéphanie pour France Travail, on a des parents qui sont à la maison des parents et qui veulent rester en France, hein, qui viennent de l'étranger, hein, ça vu la pathologie gravissime de leur enfant. Et comme il a dit Monsieur Barthélémy, cette maman qui est venue, qui s'est mariée ici et qui voulait faire de l'histoire, donc elle est éduquée et tout ça, et qui se retrouve sans travail. Et on a l'association Giampaolo qui nous aide beaucoup au niveau de la maison des parents pour un peu soutenir ces parents-là, soutenir aussi pour qu'ils apprennent la langue, déjà pour la langue française, parce qu'ils viennent aussi de plus loin et qu'ils ne savent pas encore parler le français. Voilà. Et donc il les accompagne, et ça serait très bien de faire un lien avec cette association qui peut où on peut aider ces mamans, parce que la plupart ce sont des mamans toutes seules.
Les papas sont pas toujours.
Il y a des familles qui ont des papas et des mamans, mais bon, il y a certaines mamans vraiment qui sont dans le désarroi. Voilà.
À vous entendre, on comprend que la partie médicale pure est aussi importante que celle que vous venez nous décrire.
Totalement. C'est identique. Ils doivent.
C'est près 50-50. Hein.
Voilà. Ouais, totalement.
C'est ça.
Totalement.
C'est ça.
Et je laisse après à ma collègue.
Oui, juste un mot, Isabelle, encore sur le fait que on en a déjà parlé, mais le fait que vous fassiez la chimio, donc en quoi c'est extraordinaire, j'ai envie de dire,
tu me corrigeras, hein, sur le Val d'Oise, on a Argenteuil, centre Argenteuil qui, par exemple, fournit la chimiothérapie aux autres centres. Donc, j'ai travaillé à l'hôpital Simone Veil, et en fait, on faisait les prescriptions, même si j'étais pas oncologue, à Argenteuil, et Argenteuil nous livrait la chimiothérapie et tout ça. Et là, actuellement, nous, quand on fait les protocoles avec les patients, donc on a à peu près journalièrement, on a 30 patients qui ont des protocoles bien précis, et si on n'a pas cette facilité de leur procurer de leur faire, on ne saurait pas.
Oui, vous ne pourriez pas en mesure de les appliquer.
De les appliquer.
Ah,
hein.
Oui,
c'est vraiment un travail qui est en collaboration avec nos deux pharmaciennes, la gérante Dr Rastoul et Dr Toulet. Et vraiment, c'est un travail qui est énorme, qui est fourni par l'équipe d'onco-hématologie de Marjon aussi avec nos pharmaciennes. Vraiment, c'est un travail que
c'est important.
C'est pour ça que je
voulais le souligner, parce que vous nous en aviez parlé l'année dernière et ça m'avait suffisamment interpellée pour qu'on en reparle aujourd'hui. Docteur Ferial Stambouli, vous donc vous êtes oncologue. Quels sont les progrès médicaux récents dans la prise en charge des cancers pédiatriques?
Merci Jacqueline. Alors je voudrais peut-être un peu remettre les
choses. Je vous en prie, bien sûr.
Vous pouvez me laisser donc un petit peu. Je disais que ma formation, alors moi je suis oncologue pédiatre, je suis d'abord pédiatre. Ma formation initiale c'est médecin pédiatre et je suis tombée un peu sur l'oncologie comme un coup de cœur. Je parle de ma formation personnelle, elle s'est faite à l'Institut Gustave Roussy. Et quand le docteur Pharaon parle de la chimiothérapie, en fait, et de la direction, l'hôpital d'enfants de Margency s'est doté de 6 médecins pédiatres onco-hématologues. On a tous donc une double spécialité. Et donc l'investissement, c'est un investissement particulièrement important. Ce qui n'est pas donné à tout le monde. Notre spécialité, c'est que nous avons le droit, c'est de prescrire de la chimiothérapie en tant que médecin oncologue et nous occupons des enfants parce que nous sommes pédiatres. Et donc moi, j'ai fait mes classes à l'Institut Gustave Roussy avec les professeurs Hartmann et le maire là, qui sont des sommités dans ce domaine. Et c'était mon premier coup de cœur, c'était dans ce service de l'Institut Gustave Roussy où je rencontrais des enfants qui n'avaient pas de cheveux, qui étaient tout chauves et à qui on rendait le sourire. Et quand ils sortaient de là, ils retrouvaient un peu une vie personnelle riche. Et mon deuxième coup de cœur, c'était Margency, parce que j'y suis rentrée il y a 20 ans maintenant. Et je dois dire que le maître mot de Margency, il y en a plein, c'est un lieu magique. Mais je dirais que c'est le lieu où on prend le temps de soigner. Parce que en onco-hématologie, pour avoir fait donc nos classes dans les hôpitaux référents, comme l'Institut Gustave Roussy, l'hôpital Robert Debré, l'hôpital Trousseau, l'Institut Curie, donc tous les centres de cancérologie, on prend le temps de soigner avec excellence. Mais quand l'enfant n'a ni fièvre ni chimiothérapie, il rentre chez lui. Et quand il rentre chez lui, le relais il est fait par les parents, il est en rémission, mais il continue parfois à souffrir. Et à Margency, en fait, l'enfant est toujours avec nous. D'accord. Et donc cette magie, on prend le temps du soin. C'est-à-dire que parfois l'enfant n'a rien, il n'a pas de fièvre, il va plutôt bien, il n'a pas de chimiothérapie, il est toujours à Margency parce qu'il va à l'école, et il poursuit ses activités. Mmh. Et prendre le temps du soin, à l'heure actuelle, c'est quelque chose qui tient pratiquement du miracle. C'est-à-dire que on prend le temps d'être à l'écoute et des familles et des enfants. Quand vous avez posé la question au docteur Pharaon sur la prescription de la chimiothérapie, oui, nous prescrivons les chimiothérapies parce que nous avons le droit de le faire par notre double spécialité. Et c'est très important parce que l'enfant, il reste sur place. Il se permet de nous dire, écoute, moi ce matin, je voudrais aller à l'école. Est-ce que tu veux bien nous faire la cure l'après-midi? Et je lui dis, ok. Ce qui est dans un autre service est absolument impossible. Et donc, autour de l'enfant se crée la maladie, mais la maladie commence un peu, et c'est ça qui est un peu le secret et la victoire de Margency. Je trouve la maladie, elle est combattue et des fois, elle est derrière. Mmh. Et devant, il y a, je voudrais faire un petit peu de kiné aujourd'hui. Oh, je voudrais aller à la balnéothérapie, je voudrais aller à l'école. Et donc, quelque part, c'est comme si on la repoussait dans les recoins, alors qu'en théorie, elle est omniprésente, elle ronge l'enfant. Et donc ça, c'est quelque chose de très important pour nous, de nous rendre compte que c'est un combat quotidien qui est parfois et souvent gagné.
En train de nous prouver concrètement que on l'entend dire que toute la partie morale est importante, enfin
essentiel,
pour combattre
essentiel.
Une maladie. Absolument. Et là vous avez vraiment cette dimension.
Nous, on fait le lien en fait avec les hôpitaux de proximité, comme les hôpitaux de l'Institut Curie. Notre cible, effectivement, comme l'a dit Monsieur Barthélémy et ma collègue le docteur Pharaon, c'est les blessures évidentes, c'est-à-dire la précarité, l'éloignement géographique. Mais en fait, l'arrivée du cancer dans une famille, c'est une sorte de tornade dans un ciel serein, et c'est une blessure évidente. Alors nous, évidemment, on ne va pas prendre toutes les blessures, on va prendre celles qui sont évidentes, c'est-à-dire les gens qui sont à la rue, les gens qui sont en grande difficulté, les gens qui sont très loin, comme les Dromcom, et après on leur dit, vous venez de Curie, de l'Institut Gustave Roussy, parce que le traitement est initié là-bas. Maintenant, vous allez vous poser. Nous allons pouvoir continuer le traitement, mais nous allons vous donner le temps de vous poser. Les parents se posent, ils ont des activités. Il y a l'association Gian Paolo. Il y a des parents qui sont tellement fatigués que quand ils arrivent à Margency, on les voit pas pendant 2 jours parce qu'ils vont dormir à la maison des parents. Mm-hmm. Parce qu'en fait, ils n'ont pas dormi pendant 6 semaines parce qu'ils sont restés auprès de leur enfant. Sur le qui-vive, c'est comme s'ils déposaient un peu leur bagage. Et les enfants, ils se posent un peu. C'est-à-dire que je leur dis, tu sais, aujourd'hui, t'as pas de cure.
battue, hein, t'as pas de battue, tu peux y aller, tu peux aller jouer. Et là, par exemple, tout récemment, nous avons eu un patient qui vient d'être opéré pour une tumeur osseuse, hein, ce qu'on appelle un ostéosarcome. Et en fait, on nous a appelé vendredi parce que le chirurgien m'a dit, écoute, Ferial, bon, c'est toi, Ferial, est-ce que tu peux pas me le prendre? Alors je lui dis, bah en fait, on est vendredi, c'est compliqué dans l'organisation. Il me dit, mais en fait, lui, il réclame de rentrer à la maison. En fait, il dit, bah, je voudrais rentrer à la maison, c'est ma urgence. Alors, je sais pas s'il faut s'en féliciter, parce qu'une maison, c'est quand même la maison. Mais en même temps, pour lui, qui vient de Guyane, hein, qui vient de loin, ma urgence, c'est sa deuxième maison. C'est donc, on a fait en sorte qu'il puisse rentrer à la maison rapidement. Et il s'y sent très bien. Et on peut souvent diminuer les antalgiques. Ce sont des enfants qui ont de la morphine, qui ont des traitements très lourds. Et des fois, ils vont mieux. Il faut aussi noter qu'en onco-hématologie, plus qu'en pédiatrie spécialisée, mais quand même, on a aussi des soins palliatifs. On a une cellule de soins palliatifs, on a des médecins, des soignants qui sont formés aux soins palliatifs, et on a des enfants qui finissent leur vie à l'hôpital d'enfants de Margency, mais qui ils éprouvent des joies. Je sais qu'il y a des enfants qui sont allés à des concerts, qui ont fait plein d'activités. On a beaucoup de chance, on a une professeure d'art plastique, et donc on essaye en fait de faire en sorte que avant la maladie, il y ait d'abord la vie. C'est très important pour nous. Ouais.
Oui, ce que vous dites, c'est touchant parce que les enfants n'ont pas du tout envie d'aller à l'hôpital, alors que là, pour eux, c'est une deuxième maison et
c'est ça, ça reste, c'est là où c'est, vous ça reste avez, un hôpital,
c'est une
mais c'est une,
vous,
tout dans, à fait, ouais. c'est un hôpital, mais parfois on l'oublie un peu et c'est un équilibre extrêmement précieux qu'il faut garder, parce que des fois on l'oublie. Le matin on vient, en fait c'est un vrai hôpital, on a des visites quotidiennes, on a des contre-visites quotidiennes, on finit extrêmement tard, on a des gardes de nuit, on a un médecin de garde 24 heures sur 24 le week-end compris, donc c'est un vrai hôpital avec des enjeux, avec une pharmacie, avec des prescriptions de traitement. Mais parfois nous-mêmes, en tant que médecin, on voudrait avoir les patients à disposition. Ça, c'est les médecins classiques. Les patients sont dans leur chambre et les médecins rentrent dans la chambre et font la visite. Et en fait, à Margency, c'est pas tout à fait ça. On regarde, on vient faire la visite, on dit qui est dans la chambre. Ah ben, un tel est parti à l'école, un tel était un peu fatigué, donc on s'adapte en permanence. Il faudrait voir ce patient parce qu'il a un peu mal à la gorge. Oui, mais il est allé à l'école. Bon, ben, je vais le voir tout à l'heure. On est plus à la disposition des patients.
Et du coup,
ça fait en sorte que c'est comme si la maladie reculait. Quand les patients sont tous enfermés dans leur chambre, comme dans les hôpitaux classiques, la maladie est omniprésente, en fait, avec la blouse blanche. Et nous, à Margency, on fait en sorte que cette maladie soit un partenaire, mais parce qu'on ne peut pas faire autrement, elle est là. C'est notre ennemi. Nous devons la vaincre et ramener ces enfants à leur vie normale. Et on y arrive dans 98% des cas. Mais on s'adapte. On s'adapte à eux. Et si l'enfant, il a voulu aller faire une petite balade, faire de la balnéo, je vous dis pas qu'on râle pas. On est quand même toujours un peu resté, des fois, parfois classique. On dit, mais c'est pas possible. Quand est-ce que je vais venir le voir? Entre le matin, l'école, l'après-midi, la kiné.
Parce que même certains en jouent.
Absolument, absolument. Oui. Donc, à 18h, on finit par coincer un Mathéo ou un Mathias. On lui dit, j'ai enfin pu voir comment tu vas. Je pense que ça veut dire que tu vas bien. Puisqu'on m'a dit que t'avais un peu mal, mais finalement, tu étais pas dans ta chambre. Oui, oui, ça va, ça va. Et donc, on est content finalement.
Bien sûr, bien sûr. Merci beaucoup, Isabelle Pharaon et Ferial Sambouli.
Merci à vous.
Je voudrais revenir sur le sujet des ressources financières adaptées, hein, dont nous a parlé Thierry Barthélémy. Là, vous êtes avec le MEDEF et puis le France Travail. Est-ce qu'il y a un appel à lancer auprès des entreprises? Parce que je crois qu'il y a des mécènes aussi qui... Vous vivez de dons aussi, vous recevez des dons, hein, Thierry?
Donc notre principal financeur est évidemment l'Agence régionale de santé, qui couvre toute la partie médicale. Donc c'est aussi de faire reconnaître cette hyper spécialisation. Donc là c'est vraiment à l'assurance maladie en fait de prendre en charge cette hyper médicalisation. Mais tous les à côté, il y a la maison des parents, l'association de Gianpaolo. On a toutes les activités ludiques que l'on peut faire. On a construit un parcours santé, on a fait un gymnase pour les enfants. Les activités culturelles, sportives, éducatives, tout ça, c'est pas pris en charge. Donc, on est toujours à...
C'est là où vous avez besoin d'autres fonds.
De partenariats privés. En ce moment, on a des partenaires et des mécènes qui nous permettent de réhabiliter une salle de repos pour les soignants, par exemple, avec une autre association qui s'appelle l'association Nourette, aussi une association de parents qui ont eu une enfant atteinte de cancer et qui mobilise pour avoir des fonds pour le bien-être des soignants. Donc on a des partenariats aussi qui se font comme ça, beaucoup avec les entreprises privées.
Là, vous avez moment, aussi vous avez une marraine hein, qui s'appelle Laurie, qui
alors
qui
une est marraine de
de cœur.
Longue, je sais pas qui c'est dans les 20 ans, je pense.
Oui, ah, un tout petit peu moins, mais depuis longtemps. Oui, oui elle nous accompagne dans tous les événements.
Oui. Donc elle est de la région,
c'est
donc
ça,
elle habite pas très loin, et elle a toujours gardé un lien avec l'hôpital d'enfants de Margency, et pas pour des raisons
médiatiques. Oui, c'est désintéressé, absolument.
Voilà, on la voit souvent à l'hôpital d'enfants de Margency, et sans qu'il y ait caméra ou photo.
C'est vrai, moi je l'ai rencontrée là à votre soirée de soleil, et elle était... D'ailleurs, je ne l'avais pas reconnue, hein, je dois dire, parce qu'elle est, elle fait pas du tout de... Elle se met pas en avant, quoi, plus non. que ça. Hein. Ouais.
Donc là, je sais qu'elle lance une opération avec des pâtissiers et les produits seront reversés à l'hôpital d'enfants de Margency.
Très bien, voilà. Très bien. Jeanne Berry, voulez-vous intervenir
non, par rapport à ce... L'appel sera relayé, évidemment, c'est important. Et beaucoup de chefs d'entreprise tiennent à pouvoir s'investir comme ça dans des causes qui sont essentielles pour tous et qui peuvent... tous nous concerner un jour sans forcément qu'on soit aujourd'hui. Donc voilà, oui. Pas de compter sur nous.
Très bien, ben merci infiniment. Avant de clore, je propose une dernière pause avec Elton John, I'm Still Standing, et puis on donnera la parole à mes invités pour un mot de conclusion. À tout de suite.
It's just like ice, and there's a cold and lonely light that shines from you. You'll wind up like the wreck you hide behind that mask you use. And did you think this fool could never win? Well, look at me, I'm coming back again. I got a taste of love in a simple way. And if you need to know while I'm still standing, you just fade away. Don't you know I'm still standing better than I ever did? Looking like a true survivor, feeling like a little kid. And I'm still standing after all this time, picking up the pieces of my life without you on my mind. I'm still standing.
Yeah, yeah, yeah.
I'm still standing.
Yeah, yeah, yeah.
Once I never could have hoped to win, you're stopping down the road and leaving me again. You made were meant to cut me down. And if my love was just a circus, you'd be a clown by now. No, I'm still standing better than I ever did. Looking like a true survivor, feeling like a little kid. I'm still standing after all this time, picking up the pieces of my life without.
IDFM Radio, 98 FM.
L'économie en direct sur IDFM n'est pas tout à fait terminée. C'est une émission qui, ce matin, a mis à l'honneur le MEDEF du Val-d'Oise, France Travail et puis l'hôpital de Margency pour parler de Septembre en Or afin de lutter contre les cancers pédiatriques. Docteur Stambouli, vous me disiez que c'était la première fois que vous preniez la parole comme ça d'une façon générale.
C'est assez émouvant, stressant un peu, mais oui, je saisis cette opportunité, je vous remercie. Ça me fait très plaisir de parler de mon établissement que j'ai vraiment dans mon cœur et que je considère comme une grande famille, une sorte de deuxième famille.
Très bien. Bah, écoutez, en tout cas, merci infiniment à vous d'être venu témoigner sur ce sujet douloureux et puis dont on comprend que grâce à votre engagement, vous apportez forcément un peu de chaleur dans le cœur de ces enfants. Merci, docteur Stambouli. Isabelle Pharaon, avant de nous quitter, un mot.
Je vais parler d'une petite anecdote. Un tout petit patient qui a maintenant 10 ans, 11 ans, qui est resté chez nous 4 ans, qui est reparti en Guyane, qui est revenu il y a une semaine pour faire tout un bilan et qui est revenu à Marchancy pendant toute cette semaine puisqu'il n'a pas d'autres lieux de chute. Il m'a dit, Isabelle, je lui dis, qu'est-ce qu'il y a? Il m'a dit, je veux pas rester seulement une semaine. Tu me laisses un tout petit peu plus longtemps, s'il te plaît. Donc, il est reparti. Donc, il a fait tout son bilan. Il est reparti dans de bonnes conditions avec un bon résultat pour sa pathologie.
Oui, donc là aussi, vous nous prouvez que ces enfants viennent avec... C'est merveilleux. Thierry Barthélémy, donc un mot de conclusion. Je voudrais qu'on dise juste un petit mot sur l'engagement du maire de Margency, hein, Thierry Brun, qui est quand même très investi aussi dans la gestion de cet hôpital.
Oui, je voulais conclure sur deux aspects. En fait, pour faire fonctionner un hôpital, il y a besoin des humains. Oui. Donc il y a effectivement toute la dimension technique, les professions, il y a les mesures d'attractivité que l'on peut faire, et parmi ces mesures d'attractivité, dans l'inscription aussi de l'hôpital dans un territoire, c'est le lien qu'il peut y avoir en fait avec le maire et le politique. Là il y a un projet en fait de construire des logements. Et les habitants ont été consultés et les logements seront attribués prioritairement aux salariés en fait de l'hôpital.
Ah oui, c'est vrai.
Donc c'est des projets en fait qui lient à la fois l'inscription dans le territoire, le politique et l'établissement de Margency. On a besoin des entreprises pour tout nous aider en fait dans la prise en charge de tout ce qui n'est pas financé en fait par hors médical. Donc c'est très important. C'est aussi bien pour les entreprises. Et je vais conclure sur l'humain. Ça a été le moteur, je pense, de notre session de radio.
Oui.
Et voilà, pour moi qui suis sur un poste administratif, ça peut faire peur en fait de dire je vais dans un hôpital avec des enfants atteints de cancer, ils ont des potences, ils ont pas de cheveux, etc. Et moi, j'avais beaucoup d'appréhension, en fait, ma première semaine, même à quasi avoir un malaise. Et en fait, au bout de 15 jours, et maintenant, en fait, quand je travaille, quand j'ai plein de choses, ce qui me fait le plus grand bien, en fait, c'est d'aller au contact de ces enfants, parce que c'est une leçon de vie, tous les jours. Et que l'enfant, il a une maladie très grave, ça leur tombe dessus, beaucoup aux parents, ou quelquefois, on citait la Guyane, où la maman, là, 2 jours pour préparer sa valise et aller dans un hôpital parisien, elle reste dans un hôpital parisien quelques jours et après on lui dit tu vas à Margency dans le Val d'Oise. C'est hyper déstabilisant en plus d'apprendre une nouvelle terrible. Et pour moi en fait un enfant c'est un enfant malade d'une maladie grave, mais c'est d'abord un enfant.
C'est ça.
Et en fait il y a beaucoup d'émotions à travers ce que les enfants vivent. Et c'est une leçon de vie. Ils passent très vite du rire aux larmes. Ils peuvent avoir des soins hyper douloureux et en même temps il y a une projection. Voilà, pour moi, je voulais terminer sur ça en disant, voilà, même si je suis sur un poste administratif et que je suis pas médical du tout, les enfants nous apportent énormément.
Vous avez été, vous êtes complètement investi, hein, dans ce, dans ce, dans ce domaine. Je voudrais qu'on dise un mot du partenariat des villes de Montmorency et d'Oeil-la-Barre avec l'association de Élise Princesse Courageuse qui présente la nouvelle édition de l'exposition du Paraître à l'être, et qui Madame De Vos, la maman d'Élise, fait un travail formidable justement pour essayer de récolter des fonds pour la recherche et c'est toujours une très belle exposition que j'invite nos auditrices et auditeurs à aller visiter sur ce parcours entre deuil et Montmorency.
Oui, c'est une très belle association qui intervient également au sein de l'hôpital sur un projet qui s'appelle Bulle de mode.
Bulle de mode, oui.
Et en fait, elle arrive à avoir des vêtements pour enfants de grandes marques. Et alors, faut pas que j'utilise un terme anglophone, mais elle les adapte en fait aux pathologies des enfants. Si un enfant a un cathéter à un certain endroit, ils vont découper le tissu, faire une fermeture éclair, l'habiller
choisi.
Oui, ils choisissent
des scratchs aussi. Des scratchs pour éviter les.
Voilà, pour les enfants qui ont du diabète aussi, ils font des vêtements adaptés. Et c'est l'enfant qui choisit son vêtement avec la maman. Et elle a toute une équipe de couturières bénévoles en fait qui. Ils viennent une journée à l'hôpital d'enfants de Margency. Donc je vous conseille également d'aller voir cette exposition photo entre deuil et Montmorency.
Absolument. Merci beaucoup Thierry Barthélémy. Stéphanie Pierrot, un mot de conclusion avant de nous quitter.
Après tout ça...
Que dire hein?
Je vais revenir sur mon invitation avec les journées JPE. Oui,
du patrimoine, oui, absolument. Hein.
Donc on n'oublie pas le 26, 27, 28. Nous, le 26, on ouvre 4 agences, je répète, Sarcelles, Gonesse, Saint-Ouen-l'Aumône et Argenteuil. Et surtout, saisissez l'occasion, que ce soit bien aussi bien côté entreprise que dans l'emploi. Parce que pour les citoyens, c'est aussi l'occasion, comme le disait Jeanne, de découvrir vraiment les entreprises du territoire. Pour vous, entreprise, c'est aussi exprimer vos besoins, où vous avez des manques de personnel, et puis donner aussi, parce que sans vous, on n'y arrivera pas, donner aussi l'envie aux gens de postuler chez vous, ou
bien
de
sûr.
Se former dans ces métiers. On va pas revenir sur les métiers de l'humain, mais vraiment donner l'envie, donc n'hésitez pas, et connectez-vous, et inscrivez-vous sur le site du MEDEF. Voilà.
Très bien. Merci beaucoup Stéphanie Pierrot.
Merci beaucoup Jacqueline.
À vous. Jeanne Berry, Jocelyn, le mot de la fin encore aujourd'hui est pour vous.
Non mais effectivement, encourager les gens à venir les 26, 27, 28 septembre dans les entreprises du Val d'Oise et d'autres départements, si jamais d'autres personnes nous écoutent. En dehors du Val d'Oise, il y a d'autres départements qui participent, vous pouvez vous renseigner sur le site donc des Journées du Patrimoine Économique du MEDEF. Ce sera un moment important et l'idée c'est que ce soit convivial pour tous, effectivement, de favoriser l'emploi et la découverte des entreprises de notre territoire. C'est assez original, donc c'est une occasion à saisir. Si jamais des entreprises nous écoutent et sont intéressées, même si on avance dans le temps maintenant, n'hésitez pas à nous contacter directement via le site du MEDEF. On regardera ce qu'on peut faire pour cette première édition, et puis sinon on se donne rendez-vous l'année prochaine.
Alors j'en profite pour dire que IDFM Radio sera ouverte le 26 aussi, le vendredi 26. Donc si des personnes ont envie de visiter une radio, voir nos studios, eh bien nous les accueillerons très volontiers avec grand plaisir.
Merci Jacqueline.
Merci Jeanne, merci.
Merci
donc un grand merci,
merci
à tous les cinq pour ces échanges riches et engagés. Votre présence montre à quel point le Val d'Oise est un territoire où l'économie et la solidarité avancent main dans la main. Et si la force d'un territoire se mesure à sa capacité à innover, elle se mesure également à celle de se mobiliser pour ses entreprises comme pour ses citoyens les plus vulnérables. Et je trouve que le Val d'Oise en est un bel exemple. Donc merci à vous aussi chères auditrices, auditeurs, merci d'avoir suivi cette émission. N'oubliez pas, les journées des entreprises du patrimoine auront lieu donc 26, 27, 28 septembre, et pour soutenir Septembre en or, n'hésitez pas à faire un don pour ainsi mieux lutter contre les cancers pédiatriques. Merci Francky pour la technique. Ce numéro de l'économie en direct vous a plu. Je compte alors sur vous pour en parler autour de vous. Et n'oubliez pas, son podcast est disponible sur le portail de la radio 98.fr. Et moi, je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour un nouveau numéro de l'économie en direct. Belle journée et belle semaine.
En Ile-de-France, vous écoutez IDFM Radio sur le 98FM et en DAB+.
Le Festival Baroque de Pontoise fête ses 40 ans. Sa nouvelle saison, Les Philanthropes, vous promet des surprises inédites jusqu'en juin 2026. Venez découvrir ses mécènes d'hier et d'aujourd'hui ayant fait rayonner les arts. De Christine de Suède à Scarlatti, en passant par Couperin, le Caravansérail, les Talons Lyriques, Lucille Richardot ou encore Jean Rondeau feront revivre des siècles d'histoire portés par la musique. Musique, théâtre, art de rue, cinéma, rendez-vous à l'acte 1 du 40e Festival Baroque de Pontoise avec son grand gala d'ouverture dès le 27 septembre. Renseignements et réservations sur festivalbaroque-pontoise.fr et au 01 34 35 18 71.
Bonjour, c'est Christelle. Je vous invite à découvrir Les Secrets de la Servante, votre nouvelle émission culture sur IDFM Radio. Quand la salle de spectacle se vide et que le théâtre s'endort, saviez-vous qu'il reste une petite lumière qui brille ? C'est celle de la servante. Elle veille, surveille, jusqu'au prochain réveil. Dans cette émission, nous donnons la parole à celles et ceux qui, dans l'ombre comme dans la lumière, font vivre la culture. Artistes, auteurs, techniciens, experts ou acteurs du secteur. Chaque semaine, la servante nous livre ses secrets, éclaire l'actualité et anime les coulisses du spectacle vivant. Alors rendez-vous tous les samedis à 16h sur IDFM Radio.
Bonjour, retrouvez-nous sur IDFM Radio tous les vendredis de 18h à 19h avec Toute la culture que j'aime.
Toute la culture que j'aime, c'est votre rendez-vous avec Marie-Laure
et Agnès
en alternance le vendredi de 18h à 19h. Nous partagerons nos coups de cœur.
Théâtre, littérature, musique, sorties.
Toute la culture que j'aime, c'est le vendredi de 18h à 19h sur IDFM Radio.
La maison Cocon et Papillon de Beauchamp, cette maison du bien-être et de la parentalité, fête ses 5 ans et vous invite à une journée exceptionnelle le samedi 20 septembre de 10h à 18h. Au programme, petit déjeuner offert, atelier découverte, conférences, présence d'artisans locaux et restauration sur place. Une tombola incroyable avec de nombreux lots offerts par les praticiens vous y attendent. Rendez-vous le samedi 20 septembre dès 10h. Un événement gratuit et ouvert à tous.
Tous les lundis de 21h à 22h, retrouvez Rose pour l'émission Contradiction sur IDFM Radio. Un temps dédié aux gens qui se donnent du mal pour aller bien.
Bonjour à tous, c'est Laetitia et Myriam sur IDFM Radio. On vous donne rendez-vous pour l'émission Femmes en Lumière tous les mardis à 18h.
Une émission dédiée aux femmes inspirantes et à leur parcours, l'occasion de mettre sous les projecteurs les femmes de notre région et d'ailleurs.
À très vite sur IDFM Radio.
Kalimera! Vous aimez la Grèce ou vous êtes tout simplement un fil Hélène en quête d'anecdotes ou de découvertes sur ce beau pays? Retrouvez-moi, Hermione, dans l'émission IDLN. Je vous dresse en français un rapide tour d'horizon de l'agenda culturel grec en Ile-de-France et je reçois des invités qui vous présentent leurs projets ou partagent leur expertise, toujours en lien avec la Grèce et dans une ambiance fraîche et conviviale. IDLN, c'est des idées, c'est des Hélènes, le troisième mercredi du mois à 18h sur IDFM. À bientôt! Yassa!